Merci de votre fidélité à Radio Maïwari Campus. Ravi de vous retrouver. 25e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule du lundi 15 au dimanche 21 novembre avec le soutien du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. Nous en parlons dans le cadre de l'émission Info Campus avec Madame Émilie Rouinvy, chargée d'études et développement à AGFIP. Bonjour Madame, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est l'AGFIP ?
Alors l'AGFIP agit pour l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle a été créée par la loi du 10 juillet 87 qui stipule que toutes les entreprises privées doivent avoir en leur sein au moins 6% de travailleurs handicapés si elles ont plus de 20 salariés.
25e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Quel bilan pouvez-vous dresser en Guyane de la situation, notamment dans le monde, dans le cadre du travail des personnes en situation de handicap ?
Eh bien, écoutez, la situation s'améliore. Les entreprises sont réceptives pour embaucher et maintenir des personnes en situation de handicap. Le taux d'emploi, toutefois, reste faible. Il est inférieur à 3% sur notre territoire. Les demandeurs d'emploi sont le double aussi par rapport à un territoire de métropole. Cependant, les acteurs du territoire se mobilisent pour faciliter l'insertion et le maintien dans l'emploi.
À l'occasion de cette 25e semaine européenne pour l'emploi, vous avez établi un certain nombre d'événements et de rendez-vous thématiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être les rendez-vous clés de cette semaine ?
Oui, tout à fait. Donc cette semaine, les acteurs sont largement mobilisés sur le territoire en Guyane. Donc bien sûr, le service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, mais également le dispositif emploi accompagné. Notamment, tout le monde fédère par rapport au jeudi 18, qui est le DUOD, cette journée, on va dire, nationale, pour former des duos entre une personne en situation de handicap et un professionnel, pour permettre que la personne en situation de handicap puisse découvrir un environnement de travail, un métier, et échanger avec un collectif de travail. Après, il y a des webinaires, par exemple, entreprises, pour parler de la réforme de l'obligation d'emploi, pour sensibiliser un collectif de travail au handicap. Il y a aujourd'hui, ce mercredi, la journée Handigraph, qui est réalisée avec le CERAC. Donc, c'est des artistes et des personnes malentendantes qui vont réaliser des graphes aujourd'hui. Nous avons également, donc, des webinaires pendant toute la semaine, surtout pour, si vous voulez, dédramatiser le handicap et faire en sorte que ça devienne un facteur de progrès et que souvent les personnes en situation de handicap sont créatives, sont motivées et apportent pour le collectif.
Une semaine thématique placée sous le signe de la jeunesse. Pourquoi ? Est-ce parce que les jeunes sont traditionnellement plus exposés aux fluctuations de la conjoncture économique que leurs aînés ?
Alors tout à fait, la jeunesse s'est mise à l'honneur dans le cadre de cette 25e semaine pour l'emploi. Plusieurs axes sont à l'étude, notamment l'accès à l'apprentissage, qui est un vrai levier pour les jeunes en situation de handicap avec des niveaux de qualification qui sont faibles, pour leur permettre d'accéder à un premier emploi, et sachant que ces contrats sont aidés et dans le cadre du plan de relance de l'État et dans le cadre de l'AGFIP, dans le cadre d'aides majorées. Il y a aussi la poursuite des études supérieures, donc informer les personnes sur leur possibilité d'aménagement de temps, d'horaire, d'outils pédagogiques, c'est-à-dire qu'on puisse compenser tous les moyens possibles pour pouvoir que la personne puisse être, dans le cadre de sa formation, dans des conditions optimales. La jeunesse est aussi, comme vous l'indiquiez, face à la crise de la Covid-19. Donc, ces jeunes ont été plus particulièrement touchés. Il y a une étude qui a été menée. D'ailleurs, les résultats sont annoncés dans le cadre de cette semaine pour l'emploi. Vous pourrez aller la consulter. Ça a été réalisé avec l'IFOP et l'ensemble des partenaires. Donc, en effet, globalement, les résultats, si vous voulez, les jeunes en situation de handicap ont les mêmes réflexions hein, que les jeunes tout public. En revanche, pour accéder au premier emploi, c'est souvent plus difficile. Hein, c'est parfois même doublé le temps de recherche d'emploi. Et puis, il y a aussi la représentation hein, des jeunes et du handicap. Vous savez que parfois, ces jeunes, alors quand ils ont eu un handicap de naissance, hein, mais c'est, on va dire, ça représente à peine 15% des personnes en situation de handicap. Mais déjà, il y a eu une stigmatisation par rapport à l'enfance. Et du coup, la difficulté, c'est après de faire leur reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH pour pouvoir bénéficier, si vous voulez, davantage et des moyens de compensation pour s'insérer soit dans une formation ou soit dans l'emploi.
Vous parliez tout à l'heure de taux majorés pour qui pourraient inciter les chefs d'entreprise à intégrer des jeunes en situation de handicap. Pouvez-nous en dire davantage ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que là, je vous parlais de l'aide majorée par rapport à des contrats en alternance hein, qui peuvent être et l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, il y a les aides de l'État dans le cadre du plan de relance qui existe, mais on va dire que la GFIP vient abonder ce dispositif avec des subventions qui peuvent aller de 4 000 à 5 000 euros selon la durée du contrat. Donc, c'est vrai que pour un employeur, ce type de contrat, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et notamment, le reste à charge, si vous voulez, est faible pour l'entreprise. Et l'avantage, c'est que le jeune acquiert des nouvelles compétences, travaille dans un collectif, et puis ça lui permet un tremplin pour après s'insérer durablement, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise.
Alors, les jeunes, globalement, rencontrent des difficultés pour décrocher un premier emploi par manque d'expérience. Cela ne concerne pas que les jeunes en situation de handicap, madame.
Tout à fait. Cette réflexion-là, elle porte sur tout. Les jeunes, mais je crois que voilà, les acteurs du territoire de Guyane, en tout cas, construisent, si vous voulez, des process. Par exemple, je sais que depuis l'année dernière, on avait lancé un défi apprentissage sur la Guyane avec de nombreux acteurs. Hein. Il y avait l'État, Pôle emploi, des OPCO, des organismes de formation. La GFIP, bien sûr, en a fait partie. Et l'objectif, c'était de faciliter pour l'employeur le recrutement et puis la prospection de la bonne personne pour réaliser ce contrat d'apprentissage. Donc, par exemple, pour vous donner un chiffre précis, en 2020, il y avait eu zéro contrat d'apprentissage signé avec des personnes en situation de handicap sur le territoire. En revanche, cette année, nous en avons signé déjà 4. Donc, c'est un premier pas. Hein, on voit que les chiffres peut-être vous paraissent peu, mais on va dire que c'est 400 fois plus hein, en pourcentage. Et donc, on essaye de contribuer à ce que ce type de contrat soit connu pour les employeurs du territoire. Privé comme public d'ailleurs, pardon.
Madame Émilie Ouinvie, vous êtes chargée d'études et développement à AGFIP. Vous vous occupez de l'ensemble des Antilles Guyanes. Quelle comparaison peut-on établir entre la situation chez nous à celle observée en Guadeloupe ou encore en Martinique sur la capacité et surtout sur l'intégration au fait des jeunes en particulier dans le monde du travail?
Alors, je constate qu'il n'y a très peu de différence hein, entre les Antilles et la Guyane. En tout cas, ce qui importe, c'est qu'on ait des acteurs hein, qui soient sur les territoires, qui soient impliqués et puis surtout qui soient coordonnés parce qu'il existe beaucoup de dispositifs et souvent c'est par méconnaissance et que les personnes ou les entreprises n'utilisent pas ces dispositifs. Donc notre objectif, en tout cas au niveau de la GFIP, c'est de vraiment divulguer, communiquer sur tous les dispositifs qui existent. Par exemple, sur la Guyane, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une plateforme de prêt de matériel qui a été mise en œuvre hein, depuis 2018. Elle est portée par la PAGE. Et cette plateforme de prêt donc, permet à un jeune, par exemple, qui rentrerait en formation et qui aurait besoin, par exemple, d'un siège ergonomique particulier ou un déficient visuel qui aurait besoin d'un téléagrandisseur, qui puisse rapidement accéder à un prêt de matériel pour une durée de 3 ou de 4 mois, selon qu'il soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, pour lui permettre de réaliser, par exemple, sa formation.
Alors on voit qu'il y a de multiples acteurs sur le département. Est-ce que cela n'a pas pour effet justement d'empêcher de parvenir à la bonne information au bon moment? Est-ce que ce serait pas mieux peut-être de réunir tout cela et de les centraliser finalement pour être davantage efficace en termes de communication et en termes d'accès également aux données?
Alors, la difficulté, c'est qu'on peut intervenir, si vous voulez, sur différents champs. Donc, tout ce qui est préparation à l'emploi, la formation, l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Donc, déjà, quand je vous dis tout ça, donc ça veut dire que c'est une personne pourrait bénéficier, par exemple, de nos aides et prestations depuis l'âge de ses 15 ou de ses 16 ans en apprentissage, par exemple, jusqu'au départ de à sa retraite. Donc vous voyez le parcours, on va dire, de tout à chacun dans le cadre de sa vie professionnelle. Il y a des transitions, il y a des étapes, et donc forcément ça couvre une multiplicité, si vous voulez, d'acteurs tout au long de sa vie professionnelle. Et quelque part, l'objectif, hein, en tout cas de l'AGFIP, c'est qu'aujourd'hui, la personne en situation de handicap soit réellement une société inclusive. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de choses spécifiques. On a vraiment changé notre philosophie. C'est que la personne en situation de handicap est avant tout une personne avec des compétences, un parcours. Et nous, on vient en compensation, si vous voulez, par rapport à ces freins qu'elle pourrait rencontrer pour son parcours professionnel du fait de son handicap.
Ces structures censées accueillir ces jeunes en situation de handicap, ou des adultes d'ailleurs, ont-elles toujours les ressources adaptées? Je vous dis cela puisqu'on a entendu un certain nombre de critiques qui ciblaient le fonctionnement de la MDPH notamment, qui mettait beaucoup de temps pour reconnaître déjà la situation du handicap des personnes, pour que ces personnes puissent accéder à un certain nombre d'aides. Est-ce que vous avez eu écho de cela?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu une réunion avec la collectivité de Guyane et la directrice de la MDPH était là. Je pense qu'on a constaté
Il y a beaucoup de dysfonctionnements dans ces structures notamment.
Tout à fait. Alors après, je pense que aussi la pandémie a complexifié les choses. En tout cas, il y a des solutions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un service en ligne. Ça veut dire que chaque personne peut aujourd'hui déposer en ligne son dossier et du coup avoir un accusé réception. Et quelque part, par rapport en tout cas aux prestations, aux aides et aux dispositifs que nous proposons au niveau de la GFIP, parfois le simple accusé réception du dépôt du dossier de reconnaissance est suffisant pour qu'on puisse verser, si vous voulez, les aides. Donc ça veut dire que la personne n'a pas à attendre ces délais qui pourraient incomber, en tout cas, à la maison départementale des personnes en situation de handicap.
Donc en cas d'insatisfaction d'une personne en situation d'handicap, elle peut se tourner vers vous?
Alors, tout à fait. Sur notre standard, au 05 96 71 24 66, concernant donc la MDPH, c'est vrai qu'il faut le plus simple, à mon avis, c'est de déposer désormais les dossiers en ligne, puisque ça, on est sûr que le dossier arrive et la personne pourra recevoir un accusé réception.
J'aimerais maintenant, Madame Émilie Wanvi, que l'on parle de l'opération du ODE qui a lieu ce jeudi. En quoi ça consiste?
Très bien. Alors, donc, c'est ce jeudi 18 novembre. Aujourd'hui, cette opération, elle est vraiment ancrée, on va dire, dans le cadre des semaines européennes. Donc, il s'agit de former un duo entre un professionnel et une personne en situation de handicap. Alors, il y a des avantages qu'on se rend compte immédiatement. C'est que pour la personne, ça lui fait découvrir un environnement de travail, un poste, des tâches à réaliser, mais aussi un collectif. Et du coup, pour l'entreprise, c'est un vrai atout parce que ça permet aussi de se rendre compte qu'une personne en situation de handicap, c'est comme vous et moi, elle travaille et elle peut tout à fait accéder à différents postes. On a un souci, je pense, c'est de représentation du handicap. aujourd'hui, dans nos stéréotypes, si vous voulez, le handicap, c'est quelque chose de lourd, où la personne ne peut pas travailler. On a la représentation, par exemple, des personnes dans un fauteuil roulant, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, il y a 80% de handicap invisible. Donc, ça peut être tout ce qui est, par exemple, une allergie. Alors là, je donnais l'exemple, par exemple, d'une coiffeuse qui serait allergique à un produit et qui ne pourrait plus exercer, hein, du fait de cette allergie, pourrait être reconnue, en tout cas, en qualité de travailleur handicapé. Nous avons tout ce qui est aussi maladies psychiques, hein, qui sont pas visibles. Nous pouvons avoir aussi des maladies invalidantes suite, par exemple, à des problèmes d'une maladie, tels qu'un cancer ou de la drépanocytose sur nos territoires. C'est ce qu'on peut voir le plus fréquemment. Donc, pour revenir, pardon, j'ai fait un peu d'une discrétion sur les différents types de handicap.
Mais
pour revenir donc au DOD, c'est aussi donc un avantage, hein, pour l'entreprise de sensibiliser quelque part son collectif par rapport donc à une personne en situation de handicap. Et puis, c'est un avantage aussi pour les professionnels, pour qu'ils se rendent compte où sont les freins, parfois, pour les recrutements des personnes.
La GFIP pilote un observatoire de l'emploi et du handicap au niveau des Antilles-Guyane, et on constate un certain nombre de chiffres. Vous en aviez parlé, hein, en début d'entretien, très rapidement. Ce que l'on peut constater, c'est que ces chiffres sont globalement assez bas. Comment se situe-t-il par rapport à la France, à l'Hexagone ?
D'accord. Alors, concernant, par exemple, le taux d'emploi, c'est vrai, donc il est faible. Il est nettement inférieur à celui de l'Hexagone. Concernant, par exemple, les demandeurs d'emploi, donc sur le territoire de Guyane, hein, pour parler précisément, on est aujourd'hui à peu près, les données chiffrées, pardon, que je vous donne, ça de l'année 2020, hein, pleine, mais on était sur un taux de chômage de 16%. Alors, il peut paraître donc énorme, hein, puisqu'il est le double de la métropole, puisqu'en métropole, on est sur du 8%. En revanche, l'année précédente, en 2019, nous étions à 20%. Donc, c'est pour ça que je dis que les chiffres s'améliorent. Concernant, par exemple, les caractéristiques, hein, si ça vous intéresse, de ce type de public, donc nous avons 47%, hein, de ces bénéficiaires qui ont 50 ans et plus. Et par contre, au niveau des qualifications, nous avons donc à peu près 24% de ces 16% qui ont le bac.
Alors, il y a quand même des chiffres encourageants selon les résultats publiés par la DARES. Le 9 novembre en 2019, la barre des 500 000 travailleurs handicapés employés dans les établissements de 20 salariés et plus a été franchi pour la première fois. La dynamique de l'emploi des personnes handicapées est favorable. Si en 5 ans, le nombre de travailleurs handicapés employés a progressé 2 fois plus vite que l'ensemble des publics, j'imagine au niveau national, tout cela. Tout cela m'amène à vous interroger sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, quelque chose peut-être que beaucoup d'employeurs et de chefs d'entreprise ignore. À quel moment on a une entreprise à l'obligation d'intégrer dans son effectif une personne en situation de handicap, Madame Émilie Ouinvi?
Oui, alors tout à fait. Donc pour revenir sur la loi, hein, donc ça date depuis donc 1987. Donc toutes les entreprises d'au moins 20 salariés doivent avoir dans leur effectif au moins 6% de travailleurs handicapés. Précédemment, s'ils ne remplissaient pas, si vous voulez, cette obligation d'emploi, l'entreprise devait donc payer des contributions à la GFIP. Désormais, depuis la réforme, hein, de 2018, les entreprises vont déclarer via leur DSN les personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, même celles qui ont moins de 20, vont pouvoir déclarer en DSN la situation, si vous voulez, de leurs personnes en situation de handicap dans leur effectif. Ça permettra du coup, si vous voulez, qu'on ait une photographie très précise des personnes en situation de handicap sur les toutes petites structures, mais aussi sur les grandes. Et puis aussi, ça permettra également, peut-être qu'à certaines entreprises qui peut-être oubliaient de déclarer les années précédentes, vu que maintenant ça passe par le canal, hein, des déclarations sociales nominatives, donc la DSN, donc ici sur la Guyane, ça c'est géré par le service recouvrement de la CGSS. Mmh. Si vous voulez, toutes les entreprises doivent déclarer. Et pour après avoir leur mise en conformité, que ça soit sur leurs données sociales ou fiscales, tout est inclus désormais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises vont devoir déclarer.
Et si elles ne le font pas, que risquent-elles ?
Alors, ben, dans ce cas-là, elles doivent payer des contributions. En revanche, elles peuvent aussi, hein, il y a d'autres moyens pour répondre à cette obligation d'emploi, elle peut aussi, l'entreprise, concourir à des contrats de sous-traitance ou des mises à disposition avec des entreprises adaptées ou des ESAT. Elle peut également financer elle-même certaines dépenses qui peuvent être déductibles de la contribution. Ou elles peuvent aussi signer des accords agréés. Mais c'est vrai que la loi a favorisé le fait qu'elle embauche hein, des personnes en situation de handicap. Et puis surtout qu'on essaye de faciliter ces embauches et surtout de bien mettre les moyens de compensation pour que la personne puisse être dans son emploi de façon optimale. Et sachez qu'en tout cas, la plupart du temps, il n'y a même pas besoin d'aménagement de poste.
J'aimerais que l'on parle également du rôle d'activateur de progrès. Qu'est-ce que c'est ce qui existe depuis 4 ans, a priori, et qui joue un rôle important également auprès des salariés et des entreprises ?
Alors oui, tout à fait. Donc on va dire que c'est une communication hein, qui a été mise en place à l'AGFIP. Alors aujourd'hui, on a le soutien hein, de la secrétaire d'État Sophie Cluzel, chargée des personnes en situation de handicap. L'objectif, c'est de dire aux entreprises, ben, si vous souhaitez vous engager ou si vous avez déjà mené des actions vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou vous souhaitez vous engager, vous pouvez vous inscrire en tant qu'activateur de progrès. Donc il y a une charte. Alors c'est virtuel, hein, donc il n'y a pas de signature, mais en tout cas l'entreprise s'engage, elle rentre son CIRET et quelques coordonnées. Elle peut mettre sur le site les actions qu'elle aurait réalisées en faveur des personnes en situation de handicap dans son entreprise ou les actions qu'elle souhaiterait demain réaliser. Donc ça, ce site, donc c'est sur www.activateur de progrès, vous pourrez y accéder assez rapidement. Quand vous vous inscrivez en tant qu'employeur, vous pouvez bénéficier à ce moment-là d'un kit de communication, hein, clé en main, avec des affiches, des vidéos de sensibilisation. Il y a même des jeux, donc le jeu Handi Poursuite, qui est un système de jeu de loi concernant la, pour connaître votre degré de connaissance sur le handicap, sur l'emploi, alors il y a un petit jeu aussi sur les, je cherche le terme exact, pour le cinéma, sur tout ce qui est artistique, donc le handicap et ce domaine-là. Donc on apprend pas mal de choses puisqu'il y a beaucoup d'acteurs hein, qui peuvent aussi être en situation de handicap. Et puis donc c'est témoigner voilà de son engagement, sensibiliser son collectif via ses outils et puis ça permet si vous voulez de fédérer. Donc là je crois qu'à peu près en début de semaine on était à plus de 3000 entreprises, on en avait plus d'une quarantaine en Antilles-Guyane et je crois qu'il y avait déjà une douzaine d'entreprises inscrites sur la Guyane.
Et vous avez cette campagne de communication assez accrochant, si je puis dire, avec qui met en avant Ada Gerdouche, ancienne athlète paralympique et coach en entreprise, qui a accepté avec enthousiasme de porter ce message, qu'elle suivant le progrès, c'est moi. C'est un message à la fois inspirant et très positif.
Tout à fait. Donc, Ada Gerchouch est notre ambassadrice hein, déjà depuis l'année dernière. Et c'est vrai qu'elle est donc coach professionnelle. Elle est elle-même donc en situation de handicap. Et c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut faire en sorte que le handicap soit une thématique et non pas une problématique. Et c'est de vraiment voir les choses positives voilà, dans le handicap, parce que souvent ces personnes-là ont une vraie créativité, ont une motivation, et même on peut exprimer, peuvent des fois se dépasser bien plus qu'une personne lambda. On peut le voir notamment dans le cadre des Jeux paralympiques, par exemple, qui ont été réalisés. Et puis cette campagne, Le Progrès c'est moi, après nous avons associé Le Progrès c'est nous et on a mis à disposition des entreprises avec des affiches où les entreprises peuvent par exemple faire une photo avec leur collectif de travail et ils auront donc Le Progrès c'est nous.
AGFIP dispose de quel budget, Madame Émilie Wimbier, et dépend de quel ministère ?
Alors, on est une association loi 1901, donc on est sous tutelle de l'État, mais on ne dépend pas.
D'accord.
Voilà. En revanche, toutes nos actions, on le soutient de la secrétaire d'État Sophie Cluzel, hein, chargée des personnes en situation de handicap. Et puis, tout récemment, c'est l'occasion, vous me donnez la parole, il y a eu la signature au mois de juillet de la convention État-AGFIP, qui nous donne une vraie feuille de route sur les années à venir, sur les axes prioritaires que nous devons engager avec l'État. Donc, comme dit signature, c'est bien un engagement de l'État, mais aussi un engagement de l'AGFIP. Et si j'ai le temps, donc les quatre thématiques rapidement, nous avons donc pour mission au niveau de l'AGFIP de développer l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises, donc développer l'accompagnement des entreprises dans le cadre de leur politique emploi handicap. Donc, c'est notre première mission. Deuxième mission, c'est le développement de l'alternance et notamment de l'apprentissage, dont on a parlé tout à l'heure. Troisième axe, c'est vraiment de sécuriser les parcours professionnels des personnes en situation de handicap. Et là, le cœur de notre métier, la compensation du handicap. Et puis, la dernière chose, c'est de fédérer ce réseau d'acteurs et surtout professionnaliser les acteurs pour que justement, il puisse y avoir une meilleure coordination, vous en parlez tout à l'heure, et surtout que les acteurs du territoire, que vous vous trouviez en Guyane ou que vous vous trouviez sur un territoire en métropole, puissent avoir accès aux mêmes aides, aux mêmes prestations et aux mêmes services.
25e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, ce qui se déroule du 15 au dimanche 21 novembre. Placé cette année sous le signe de la jeunesse. Merci beaucoup, Madame Émilie Wimbier, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes chargée d'études et développement à AGFIP. Merci, Madame. Au revoir.
Merci à tous. Au revoir.